Bonjour tout le monde.
J'ai le plaisir de vous présenter notre équipe d'animateurs pour cette émission de radio. Mustapha, Oussama, Brahim et moi-même, Fianso.
On vous retrouve aujourd'hui pour parler du néocolonialisme.
Au programme, une définition du colonialisme et du néocolonialisme avec un échange entre Sofiane et Oussama.
Brahim, tu nous donneras ton point de vue perso.
En deuxième partie d'émission, rencontre avec Willy Beauvallet. Il est chercheur en sciences politiques à l'Université Lyon 2.
Radio B, les bonnes ondes.
Sofiane et Oussama, vous avez travaillé sur les notions de néocolonialisme.
C'est quoi le néocolonialisme, Oussama ?
Avant de parler du néocolonialisme, Sofiane, il faut définir le colonialisme. Attention, ce n'est pas tout à fait la même chose que la colonisation.
C'est quoi la différence, dis-moi ?
Selon le dictionnaire Larousse, c'est un système qui préconise l'établissement et le développement de pays dépendants considérés comme source de richesse et de puissance pour la nation qui colonise. C'est une idéologie qui sert à dominer et asservir les peuples. Le colonialisme justifie le processus de colonisation.
En fait, ce que tu me racontes, Oussama, la colonisation, c'est la mise en application de cette idéologie ?
Exactement, Sofiane. Il s'agit du processus par lequel un pays s'établit par la force sur un territoire étranger. Par exemple, l'instauration militaire d'un État, comme l'État français en Algérie ou en Indochine.
Et donc le néocolonialisme ? Mais qu'est-ce que c'est en fait ?
Le néocolonialisme, c'est ce qui se passe depuis l'accès à l'indépendance des anciennes colonies. Larousse dit « politique menée par certains pays développés visant à instituer, sous des formes nouvelles, leur domination sur les États indépendants du tiers-monde autrefois colonisés ». En fait, c'est une forme de colonisation discrète, qui passe par une domination économique par exemple.
Là, il n'y a pas de violence, a priori, par la présence d'une armée forcément sur le territoire. On pense aux pays africains, aux multinationales françaises, qui vont piller les ressources en pétrole ou autres minerais, par exemple.
Oui, c'est la colonisation moderne. Mais ce n'est pas si simple. Les chefs d'État de pays africains sont souvent de mèche avec les entreprises françaises.
Aux Nations Unies, en 1945, on a accordé pourtant au peuple le droit de disposer d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est une théorie, parce qu'en pratique, c'est pas respecté. Hein.
Brahim, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un sujet qui t'interpelle ?
J'ai choisi ce sujet parce que je me suis aperçu qu'en fait cette idéologie domine le monde. Je me suis aperçu qu'il y a certaines grandes puissances, anciennement puissances coloniales, qui réapparaissent et qui essayent de rentrer dans les économies de certains pays du tiers-monde afin d'exploiter leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Il y a le Mali, il y a Niger, Côte d'Ivoire. Ça me touche particulièrement parce que je déteste les injustices.
Et juste après, le titre de Kerry James, Lettre à la République, on retrouve Willy Beauvallet, il est chercheur en sciences politiques à l'Université Lyon 2.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Willy Beauvallet, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université Lyon 2.
Comment est né le colonialisme ?
Alors, je dirais que le colonialisme, c'est un processus de conquête, hein, d'occupation et d'exploitation d'un territoire et de sa population dans l'intérêt d'une puissance tutélaire, de la puissance occupante, et dans le cadre d'un rapport fondamentalement inégal, hein, entre la population du pays occupant et la population du territoire occupé.
Pourquoi cette idéologie s'est-elle autant répandue en Europe ?
Alors elle s'est répandue au moment où l'Europe devient un ensemble de puissances en expansion et qui vont tenter de soumettre une partie de la planète à leurs propres impératifs et aux impératifs de leur propre extension. Et cette extension, elle suppose un rayonnement politique et territorial. Donc il faut être une puissance coloniale pour être une grande puissance, pour pouvoir avoir des bases et des relais un peu partout dans le monde. Il faut être une grande puissance parce qu'il faut s'approprier des ressources extérieures, des ressources alimentaires, des matières premières. Et il faut être une grande puissance pour pouvoir aussi exploiter des marchés extérieurs, qui permettent d'écouler les produits fabriqués dans la puissance coloniale. Donc c'est un double processus de prédation, prendre des ressources pour les réintégrer dans l'économie de la puissance occupante, mais c'est aussi un processus de permettant d'écouler les marchandises produites dans la puissance occupante.
Pourquoi la France a colonisé d'autres territoires ?
Il faut savoir que la colonisation est un processus en France finalement assez récent. C'est surtout sous la Troisième République, c'est-à-dire en 1870, après la Révolution industrielle et après l'institutionnalisation de la République, de la création de l'État social, que la France s'impose comme une puissance coloniale de premier ordre.
Pourquoi la colonisation n'a jamais été punie par les organisations internationales ?
C'est un phénomène assez récent. C'est-à-dire que depuis 1945, s'est imposé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une norme fondamentale de l'ordre international. Et donc ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique un processus de décolonisation. Le processus de colonisation, en tant que tel, est désormais un processus qui est considéré comme illégal, illégitime en tous les cas au regard du droit international. Et la France, au regard du droit international, est toujours considérée comme une puissance coloniale en raison de sa présence à Mayotte, par exemple, qui normalement fait partie de l'État des Comores, mais qui a été détaché de l'État des Comores au milieu des années 70 lorsque les Comores sont devenus indépendants. L'île de Mayotte a refusé l'indépendance, elle a voté pour le maintien dans la République française. C'est la raison pour laquelle la République française a maintenu l'île de Mayotte sous sa juridiction, mais en contradiction avec le droit international, parce que le droit international, outre d'affirmer le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, implique aussi le fait que les nations, les pays restent unifiés. Le fait de ne pas considérer les Comores comme un État unifié est une violation du droit international.
Est-ce que ça a été le même procédé pour la Nouvelle-Calédonie ?
Tout à fait, ouais. La Nouvelle-Calédonie, c'est aux yeux du droit international considéré comme un processus de décolonisation en cours, hein, dont le récent référendum est un des actes.
Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'une organisation internationale comme l'ONU, par exemple, ne sanctionne pas la France pour ses actions pendant la colonisation, mais pas que la France, hein, on prend la France parce qu'on est en France, mais aussi Israël, et Israël continue encore avec, par exemple, les Palestiniens. J'aimerais avoir votre sentiment, votre position par rapport à ça.
Alors pourquoi l'ONU ne condamne pas ? Parce que l'ONU est dans un schéma institutionnel qui est très particulier, c'est-à-dire que les décisions contraignantes de l'Organisation des Nations Unies sont prises dans le cadre d'une institution interne à l'ONU qui est très particulière, qui est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité regroupe une quinzaine d'États qui sont élus pour les uns, et pour les autres membres permanents disposant d'un droit de veto, donc les cinq grandes puissances. Et les cinq grandes puissances ont la faculté d'empêcher une décision contraignante à l'égard d'un État ou d'elle-même qui leur serait défavorable. Alors c'est un processus qui a pour effet de bloquer la capacité de l'ONU à réagir, mais c'est aussi un processus qui a pour ambition initiale d'empêcher que l'ONU, finalement, en elle-même, ne conduise à provoquer un conflit généralisé avec des puissances planétaires. Alors il est vrai, cela dit, que dans les années 60, 70, 80, l'Assemblée générale des Nations Unies a pu prendre un certain nombre de décisions, mais qui n'ont qu'une portée politique ou symbolique, parce que l'Assemblée générale de l'ONU n'a pas la possibilité, cette Assemblée, de prendre des décisions contraignantes. Mais cela dit, elle a pris des décisions qui ont des effets politiques importants. Par exemple, elle a condamné l'apartheid dans les années 70, où elle a imposé la reconnaissance de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, comme représentante légitime des Palestiniens.
Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme. C'est quoi pour vous le néocolonialisme ?
Alors le néocolonialisme, je dirais, c'est la colonisation, donc le phénomène que j'évoquais au tout début, c'est ce processus d'occupation, de conquête, d'occupation, d'exploitation d'un territoire. Ça, c'est la colonisation. Et le terme de néocolonisation vise à montrer que finalement, cette situation d'exploitation se poursuit au-delà du rapport colonial en question, c'est-à-dire au-delà de la situation d'occupation. Le territoire et la population concernée sont indépendants. Et malgré cette indépendance, eh bien, on perçoit ou se maintiennent finalement des liens de dépendance à l'ancienne puissance occupante qui rappellent sous certains aspects la situation propre à la situation coloniale. Le néocolonialisme est apparu lorsque les puissances coloniales ont concédé l'indépendance de gré ou de force, de gré par exemple en ce qui concerne la Tunisie ou le Maroc pour la France, ou de force dans le cadre de ce qui concerne l'Algérie, où les Algériens ont arraché leur indépendance à l'issue d'une guerre extrêmement meurtrière. La néocolonisation apparaît lorsque, à l'issue de ce processus de décolonisation, les liens de dépendance caractéristiques de la situation coloniale se maintiennent dans le cadre des équilibres qui vont régir les relations entre l'ancien territoire occupé et l'ancienne puissance occupante ou l'ancienne puissance coloniale. Donc concrètement, c'est dans les années 60 que ces dispositifs ou ces relations se mettent en place dans le cadre d'un jeu qui est néanmoins plus complexe qu'il y paraît. C'est-à-dire que c'est à la fois une mise sous dépendance du pays nouvellement indépendant vis-à-vis d'anciennes puissances coloniales, mais c'est aussi le maintien d'une relation dont le pays anciennement colonisé estime pouvoir profiter.
Certains disent que la colonisation a été bénéfique pour les occupants. Alors, est-il vrai que ça a rehaussé leur niveau de vie ou est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'ils ont eu plus de travail, de meilleur travail, de meilleures conditions de travail, ou je sais pas, ou meilleur, voilà quoi.
Pour ma part, je pense que c'est un discours qui est très difficile à tenir et très difficile à entendre, hein, évidemment, dans la mesure où, encore une fois, la colonisation, c'est vraiment un processus qui consiste à mettre un territoire et sa population en ordre dans l'intérêt quasi exclusif de la puissance coloniale, de la puissance occupante. Or, le drame des pays qu'un certain nombre de pays vivent ou ont vécu après la décolonisation montre précisément que la colonisation n'a sans doute pas été réalisée dans leur intérêt. Parce que si elle avait été réalisée dans leur intérêt, eh bien, ce sont des pays qui auraient sans doute connu un destin différent, hein, puisqu'ils auraient eu les équilibres sociaux, économiques nécessaires pour se développer de façon convenable ou tenir leur place dans les relations internationales. Mais ça tient aussi au mythe de la colonisation française, hein, c'est-à-dire que, à la différence d'autres colonisations, la colonisation française était fondée sur le mythe civilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on allait conquérir un pays et on allait le tenir pour permettre à sa population d'accéder à un niveau de développement supérieur, à un état supérieur, et donc d'accéder à un certain nombre de droits, de libertés, de savoirs, qui permettraient à cette population de rompre avec l'obscurantisme, finalement, dans laquelle elle était prise, enfermée, jusqu'à ce que la puissance occupante vienne lui montrer le chemin et lui montrer la lumière. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, hein, on peut y revenir par après, la relation concrète lors de la colonisation est beaucoup plus complexe, hein, en même temps. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui, de fait, ont été intriquées les unes dans les autres pendant plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années parfois. Donc les relations concrètes sont assez complexes ou compliquées à appréhender.
Quand un État occidental intervient dans un pays pour mener une guerre, est-ce que ce n'est pas une forme de néocolonialisme ?
Quand une ancienne puissance coloniale intervient dans son ancien précaré colonial. Alors par exemple, quand la France intervient en Centrafrique, au Mali, etc., donc dans des régions qu'elle a occupées, dans laquelle elle a eu des colonies, on peut se poser la question, effectivement. Le fait est que aujourd'hui, lorsque les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne ou la France interviennent au Moyen-Orient, où, ça peut relever aussi de phénomènes tout à fait différents, en fait, qui n'ont pas tant à voir avec le phénomène colonial ou avec la volonté de maintenir le phénomène colonial qu'avec autre chose. Et la relation dite néocoloniale, elle passe pas nécessairement par des phénomènes guerriers pour autant, en fait. Hein, ça passe beaucoup plus sur finalement la stabilité et la normalisation d'un système d'échange politique, d'un système d'échange économique qui ont pour effet, en fait, de placer la puissance, l'ancienne puissance coloniale sous dépendance de la puissance tutélaire. Le propre de la relation néocoloniale, je pense, c'est de poursuivre un phénomène de dépendance sans contrôle militaire ou policier direct et visible. C'est toute la relation qui caractérise ce qu'on appelle la France-Afrique, quoi, dans les années 70-80, et qui est un phénomène qui est à la fois qui répond à une demande de la puissance coloniale, mais aussi d'une certaine façon à une demande des élites, hein, du pays colonisé, qui pour tout un tas de raisons veulent maintenir cette relation privilégiée avec l'ancienne puissance coloniale, et qui est aussi capable de faire chanter l'ancienne puissance coloniale, hein. C'est le propre de tous les grands chefs d'État africains qui ont passé 20, 30, 40 ans au pouvoir et qui ont réussi systématiquement, en fait, à obtenir de l'ancienne puissance coloniale des décisions qui allaient dans leur intérêt, en fait. Donc c'est une double relation dans laquelle les États dans laquelle une partie des élites de l'État colonisé ont intérêt aussi, en fait. C'est une relation, voilà, c'est pas simplement une relation dans laquelle les États, les anciens États colonisés sont simplement passifs, quoi. En fait, c'est pas, voilà. Il faudrait pas penser que les uns ont une capacité comme ça de manipuler les autres à leur intérêt strict. Je pense que c'est une relation de double, un peu de double dépendance quand même, double jeu, ouais, voilà, ouais, tout à fait, ouais.
On va revenir sur la Palestine, si vous le permettez. Pour vous, ce qui se passe là-bas, c'est une forme de colonialisme ?
Oui, c'est une forme de colonialisme pour une raison très simple, hein, c'est que il faudrait revenir un peu sur l'histoire, mais l'histoire du conflit entre Israël et Palestine, c'est l'histoire qui tient à la façon dont des groupes de personnes venant d'ailleurs, hein, en l'occurrence des Juifs persécutés dans le contexte européen du 19e et du début 20e siècle, vont s'installer dans un territoire pour tenter de prendre le contrôle de ce territoire et y fonder un État pour eux-mêmes. Donc ça, c'est une première lien à la logique coloniale, c'est l'histoire de l'implantation d'une population venue d'ailleurs dans un autre territoire. À ce moment-là, sous le contrôle d'une puissance coloniale, pour le coup, qui est la Grande-Bretagne. C'est une puissance maritime mondiale, elle a absolument besoin de contrôler cette voie de navigation. Donc pour contrôler l'Égypte, elle va essayer de contrôler la Palestine. Et pour contrôler la Palestine, eh bien, elle va s'appuyer, hein, sur le sionisme qui, lui, cherche à s'implanter en Palestine pour des raisons qui lui sont propres. Hein, donc cette relation entre le sionisme d'un côté et la Grande-Bretagne, elle va casser après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le sionisme, les sionistes veulent fonder l'indépendance de l'État d'Israël et se séparer de la tutelle britannique. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsque les Israéliens, donc indépendants, vont ensuite conquérir les territoires qui étaient normalement réservés pour les Palestiniens, donc la Cisjordanie et Gaza, eh bien, ils vont s'approprier ces territoires dans un sens qui est un peu celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire occupation, conquête militaire du territoire, occupation sur le long terme de ce territoire, organisation du territoire dans le sens de l'intérêt de la puissance occupante, donc c'est les logiques de prédation de l'eau ou un certain nombre d'autres ressources palestiniennes, et progressivement instauration d'une relation très inégalitaire sur le long terme entre la puissance occupante, donc les Israéliens, et les personnes qui vivent sur le territoire occupé, en l'occurrence les Palestiniens, hein, de Cisjordanie et de Gaza. Et enfin, le troisième élément, c'est que sur ces territoires conquis, les Israéliens vont implanter des personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui les colons, hein, sur les territoires qui normalement sont réservés. Donc ça, c'est un processus de colonisation, de peuplement, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on va s'approprier le territoire, on va y implanter des populations, de sorte à pouvoir mailler le territoire et rendre difficile, sinon impossible, son indépendance, en fait.
Et pour changer un peu de registre, on va passer un peu à l'Ukraine. Enfin, on a un pays coupé en deux, entre une partie qui est soutenue par les Américains et les Européens, et une partie soutenue par la Russie, et qui est russophone. La Crimée a voté pour appartenir à la Russie. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore un conflit armé sur place ?
À mon avis, pour saisir le conflit en Ukraine, en fait, il faut élargir un peu la perspective historique. Et la racine du problème, elle vient en 1990, lorsque l'URSS explose ou implose, lorsque l'URSS disparaît. Et cette situation, en 1990, fait que, en fait, toute la relation qui opposait la France, la Grande-Bretagne, puis les États-Unis et la Russie et l'URSS, toute cette relation de rivalité, en fait, géopolitique mondiale qui s'était stabilisée avec l'URSS va se rejouer avec la disparition de l'URSS. Le reflux de cet empire russe va susciter, à l'inverse, une expansion territoriale des empires rivaux ou des puissances rivales. Et donc les États-Unis, au cours des années 90 et 2000, vont profiter de l'affaiblissement de la Russie pour rapprocher les frontières de l'OTAN des frontières de la Russie. Et ça va se jouer aussi avec l'Union européenne, hein, qui, les pays de l'Union européenne sont à la fois liés aux Américains via l'OTAN et sont autonomes dans le cadre de la coopération économique de l'Union européenne, qui est une union essentiellement économique. Du coup, le fait est que la crise ukrainienne survient lorsque la Russie va renaître un peu de sa phase d'affaiblissement. Ça correspond à l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Et la situation, elle se tend à partir de 2008, hein, lorsque les États-Unis, on est très largement sous la période Bush, en fait, lorsque les États-Unis laissent entendre l'Ukraine d'un côté et la Géorgie de l'autre pourraient adhérer à l'OTAN, comme l'ont fait les États baltes, etc. Et ça aboutit en 2008 à la guerre de la Géorgie, un conflit armé en Géorgie, et ça tend très fortement les relations entre les différents États. Et il se trouve que en 2013, ça doit être le début de la crise en Ukraine, les Européens négocient avec l'Ukraine un accord de libre-échange, ce qui pose de gros soucis d'ordre géopolitique et de géoéconomie à la Russie, qui s'oppose en fait à la signature de cet accord. Et c'est là que débute le conflit entre l'Ukraine d'un côté, entre la Russie et l'Ukraine d'un côté, et donc les Européens et la Russie de l'autre. Mais le fait est que l'Ukraine est un État qui est placé à l'intersection entre deux entités, et le fait d'avoir obligé l'Ukraine à choisir entre les deux est une des causes, me semble-t-il, du conflit. Et ça a été extrêmement mal géré, me semble-t-il, par les Européens et les Américains, parce qu'ils ont sous-estimé la capacité et la détermination des Russes à ne pas céder sur cette question et à ne pas laisser l'OTAN se rapprocher de leurs frontières. Or, il y a un enjeu qui est tout à fait fondamental en Ukraine pour les Russes, c'est la Crimée. Pourquoi ? C'est la mer, ouais. Pourquoi ? Parce que la Crimée, c'est la base de Sébastopol. C'est la base historique de la puissance russe en mer Noire. Et c'est très mal géré parce que, du coup, l'Ukraine a perdu la Crimée. Elle la perd de plus en plus, et la crise récente le montre, et c'est une erreur considérable, en partie parce que les Européens ont refusé, je pense, se sont trop fortement alignés sur un point de vue américain à ce moment-là, qui voit les choses de façon beaucoup plus lointaine, en fait, hein, mais c'est contraire à nos intérêts d'Européens, je pense. Nous n'avons pas intérêt à avoir une relation avec la Russie tendue, et c'était pas l'intérêt des Ukrainiens non plus, je pense.
Quelles conséquences peuvent avoir les nouvelles formes de colonialisme sur les peuples ?
Alors c'est sans doute un peu difficile de répondre à la question. Je pense que c'est très spécifique en fonction des situations. Ça pose la question plus générale de la distribution mondiale des richesses, hein, et de la manière dont les pays qui concentrent aujourd'hui les richesses sont capables créer des processus visant à redistribuer ces richesses de façon un peu plus équitable. Donc je pense que c'est l'enjeu de la relation aujourd'hui, c'est quelles ressources les pays du tiers-monde, pour aller vite, de quelles ressources ils disposent pour pouvoir rééquilibrer les relations entre eux-mêmes et les principales puissances dominantes, en sachant que ces relations sont en partie structurelle, c'est-à-dire que ça ne relève pas de décisions individuelles, ça relève d'un processus en fait qui se renforce de lui-même, qui accroît les écarts mondiaux, qui accroît les concentrations de richesses, qui accroît donc les tensions, les points de conflit. Et pour enrayer cette dynamique, ça suppose d'essayer de concevoir de nouveaux processus de démocratie internationale, en quelque sorte, hein, qui permettraient de rééquilibrer les relations et les échanges entre les uns et les autres. Ouais.
Une interview très intéressante. Ça n'a pas changé mon point de vue sur le colonialisme en général. Pour moi, les gens sont éveillés maintenant. Ils ont accès à ce genre d'informations grâce à Internet.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'au fond, on avait la même vision des choses et la même interprétation des conflits ou des décisions prises par les grandes puissances.
L'équipe de Radio B souhaite remercier tous les auditeurs et tout particulièrement Elodie et Audrey.
Merci à Willy Beauvallet d'être venu à notre rencontre.
C'est la fin de notre émission. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.radio-b.fr.
Au revoir tout le monde. Salam alaikum.